on va essayer de faire les chapitres, de continuer le chapitre 1 et de faire également le chapitre 2 du roulant. Juste un petit rappel de ce que nous avons pu voir la semaine dernière. Donc, on a vu que Corinthe, c'était une ville avec un emplacement stratégique entre deux ports, avec beaucoup de trafic qui générait une recette économique certaine, une ville d'importance avec à environ 700 000 habitants, une ville aussi particulière au niveau des mœurs. Il y a donc la ville haute avec le temple d'Aphrodite, avec des prêtresses qui ne sont que finalement des prostituées sacrées et qui donc le soir descendaient. Il y avait beaucoup de marins, donc il y avait beaucoup de travail pour ces personnes. Une débauche à tel point que Corinthe était devenue un synonyme de débauche et de débauche vraiment à outrance. Et c'est dans cet environnement, dans ce milieu, dans cette mentalité, eh bien que l'église de Corinthe se trouvait, église fondée par Paul, et qui donc était en proie à vraiment des grandes difficultés au niveau du comportement. Les Corinthiens ne mettaient pas en pratique, ne savaient pas que l'amour du monde devait être une inimitié contre Dieu, et vivaient finalement en se calquant sur la mentalité du monde, en ayant des pratiques aussi qui ressemblaient, ou même qui étaient pires d'après Paul, que ce que pratiquaient certains païens. Et c'est donc la raison principale de la rédaction de cette lettre. Et il y a eu des questions également qui ont été posées à Paul, et Paul donc va répondre à ces questions. Et on a dit que c'est une lettre qui était vraiment très très pratique et qui peut nous aider dans de nombreux domaines de notre vie. Vraiment avec des situations qui peuvent s'adapter, hein, donc vraiment des principes de vie que l'on peut transférer dans notre quotidien. Donc voilà, c'est vraiment une lettre qui est concrète et qui peut vraiment nous aider. Et comme c'est une lettre qui est très longue, on ne fait que des survols. Hein, donc on passe assez vite. Et le but, c'est qu'on puisse s'encourager les uns les autres à replonger ensuite dans ces textes pour vraiment les étudier, les ruminer en quelque sorte, se les approprier. Hein. Et pouvoir ainsi vivre une vie qui soit toute la gloire de notre Seigneur. Et c'est quand même intéressant d'avoir un texte très pratique qui est finalement, qui a été écrit il y a presque 2000 ans, mais qui est tout à fait d'actualité encore pour nous aujourd'hui. Voilà. Et on avait pris donc les premiers versets de la première lettre, où on avait donc rappelé un petit peu ce qu'est l'apôtre selon la parole de Dieu. Donc des personnes à qui Dieu a confié un ministère particulier, et notamment la rédaction, en partie en tout cas, du Nouveau Testament, et puis également l'enseignement, puisque eux ont été en contact avec Jésus-Christ. Et même si apôtre veut dire envoyé, dans le sens que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est pas, donc tous ne sont pas apôtres. Et ça, on y reviendra aussi dans quelques chapitres de ce livre. Voilà. Et puis, très encourageant, hein, même si ces chrétiens avaient une vie qui n'était pas vraiment celle que Dieu veut pour ses enfants, malgré tout, eh bien, il y a cette certitude que, verset 8, Dieu vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Et ça, c'est basé non pas sur ce que pouvaient faire les Corinthiens, non pas ce que nous pouvons faire nous, mais sur la fidélité de Dieu qui est la garantie de notre salut complet éternel. Voilà un petit peu donc rapidement brosser ce que on avait pu voir mardi dernier. Et là, on va continuer dans les textes et on va de nouveau lire ces versets 1 à 9 parce qu'on n'avait pas tout à fait fini. Il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes. Donc, si quelqu'un veut lire les 9 premiers versets à nouveau, du chapitre 1 toujours. Alors, je vous le mets ici. Là, ce sont juste les versets que vous avez, si jamais certains prennent des notes. Voilà, ce sont simplement les versets. Je n'ai pas fait de photocopie, je vous les projette. Voilà. Donc, si quelqu'un peut lire les 9 premiers versets.
Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra, rien vous pourra vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre uni avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà, merci Nathan. Et juste quelques petits détails, hein. Ça sera très rapide, après on va passer au reste du texte. Mais simplement, au verset 6, là, moi en version seconde, j'ai le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Toi, tu l'avais un petit peu différemment et c'était assez intéressant comme éclairage. Et bon, donc on sait que c'est Paul, que c'est Apollos, que c'est aussi Céphas qui ont témoigné. On pourrait dire qu'ils ont été à bonne école. Simplement, on verra plus tard que finalement, c'est pas ça l'important. Ces frères ont vraiment montré que le fondement, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et solidement établi pour parmi vous, dans le sens que voilà, c'est finalement Jésus-Christ qui a été présenté. Paul va y revenir ensuite. Et aussi, un petit détail, les versets 4 et 5, je rends grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et le témoignage. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Alors, c'est pas ça que je voulais chercher. La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Voilà. C'est vraiment en Jésus-Christ que vous avez eu cela. Et il y avait aussi autre chose, mais je m'en rappelle, je ne l'ai pas noté, donc c'est dommage, je voulais vous faire remarquer quelque chose, et c'est de ma faute, je ne l'ai pas... Pourtant, il m'avait semblé que c'était... Ah, voilà, si. Voilà. Je note pas, mais quand même, c'est pas tout à fait encore Alzheimer. Même si des fois, j'entends qu'on me taxe d'Alzheimer, mais bon. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. C'est surtout le petit mot parmi. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des traductions, peut-être que vous les avez, qui disent en vous. Voilà. Et ce petit mot, finalement, c'est le même qui est utilisé, par exemple, concernant Marie, lorsque Marie était enceinte de Jésus-Christ. Enceinte, c'est le même mot qui est traduit ici par « parmi » ou dans d'autres traductions « en ». Et ça nous montre que soit Paul parle au sujet de l'Église, et c'est valable puisque Christ était vivant au milieu de cette communauté, soit il parle au niveau individu, et nous avons en nous la parole de Dieu, nous avons en nous la vie de Jésus-Christ, nous avons en nous le Saint-Esprit. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit détail, quelque part, qui est important. Et en plus, il est important parce que Paul s'adresse à des chrétiens qui ont une vie un petit peu dissolue. Mais malgré cela, eh bien, la vie de Christ est en nous. Voilà. Comme Marie était enceinte, voilà, de la même façon, un petit peu, voilà, c'est le même terme, la vie de Christ est en eux. Et puis encore un dernier petit détail aussi qui paraît paradoxal. Paul au verset 7 va leur dire « Il ne vous manque aucun don ». Ça paraît extraordinaire alors qu'ils vivent un petit peu n'importe comment et pourtant il ne leur manque aucun don. Et ça nous montre quand même, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, ça nous montre que finalement les dons que Dieu nous fait ne dépendent pas de notre degré de spiritualité. Le Seigneur est celui qui nous équipe. Et il équipe ses enfants dès qu'ils viennent au monde par la nouvelle naissance. Voilà. Il ne vous manque aucun don. Donc vous avez tout. Vous avez tout pour pouvoir progresser. Et pour pouvoir aussi enseigner pour être vraiment au service de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Il ne nous manque aucun don. Et si Paul le dit aux Corinthiens, bien entendu, il le dit aussi à nous ici, l'Église de Pau. Et ça, on va y revenir ensuite. On va y revenir un petit peu plus tard, notamment dans les chapitres 12, etc. On voit que ces chrétiens ne leur manquaient aucun don, pourtant ils sont en recherche. Ils sont en recherche, et notamment ils sont en recherche des dons les plus spectaculaires. On le verra. Mais juste à ce sujet, ça m'a fait penser à cette expérience que Pierre a vécue. C'est pour ça que je vous ai mis 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 à la fin. Je peux juste vous le dire, on va le lire, ça sera plus facile.
2 Pierre, oui. En ce qui concerne les dons, il en parle dans le chapitre 12.
Oui, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on va y revenir. Voilà, il en parle en détail après. Il en parle en détail. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'étendre là-dessus, puisque après, vraiment, c'est l'épître, pour ne pas dire l'épître, où il est le plus question d'explication au sujet justement des dons. Mais là, regardez, pour tout ce qui est de spectaculaire. Pierre va dire ceci au chapitre 16 au verset 16 du chapitre 1 de 2 Pierre. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc là, bien sûr, c'est un apôtre. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions sur la sainte montagne. Donc voilà, une expérience vraiment qui peut dire, moi j'ai vécu cette expérience d'avoir vu le Christ transfiguré et d'avoir entendu la voix du Père qui s'adressait ainsi à son Fils et aux disciples. Qui peut dire cela ? Et ça, vraiment, comme témoignage spectaculaire, je crois qu'il n'y a pas mieux. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il va faire Pierre. Pierre détourne les regards de ses lecteurs du spectaculaire vers quoi ? Vers la base qui est la parole de Dieu. Il va dire, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et vraiment, que ce soit aussi pour nous une ligne de conduite. Notre base, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est parce que nous avons la parole de Dieu que nous pouvons vraiment contempler le Christ. Et pour notre foi, c'est suffisant. Mais on va y revenir beaucoup plus en détail ensuite. Et là, on va avancer et on va passer donc... on va lire... alors, là, on va entamer un grand chapitre. Nous, on va le voir jusqu'à la fin du chapitre 2. Mais en fait, Paul va parler jusqu'à la fin du chapitre 3 voilà, d'un point qui est très 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 important. Et pour vous donner une petite vue d'ensemble, il va partir de la division qu'il constate, qu'on lui a rapportée, au niveau donc de cette église. Quelles sont les raisons de cette division ? On va comparer les serviteurs de Dieu, Paul, Apollos, Céphas, certains vont même dire « Moi, je suis le Christ ». Et Paul les met tous dans le même sac, on pourrait être étonné. Mais en fait, ceux qui disent « Moi, je suis le Christ », c'est par esprit de parti aussi. Ce n'est pas vraiment parce qu'ils s'attachent au Christ, mais c'est parce qu'ils veulent voilà, montrer aux autres qu'eux, ils ont quelque chose voilà, de mieux. On compare donc et on se positionne par rapport à ces comparaisons. Et quand on s'est positionné pour l'un, ben forcément, on est contre l'autre. Et on est aussi contre ceux qui se sont positionnés pour l'autre. Et Paul va prendre cela comme point de départ. Il va faire une démonstration vraiment merveilleuse qui va nous amener jusqu'à la fin du chapitre 3. Et dans cette démonstration, il va dire, mais si quelque part vous vous attachez aux messagers, aux serviteurs de Dieu, et que vous les comparez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous focalisez sur la sagesse humaine. Sur les compétences humaines. Et si vous vous focalisez sur les compétences humaines, automatiquement, vous quittez des yeux la sagesse de Dieu. Voilà ce que va dire Paul, et vous verrez que les mots sagesse, sage vont revenir sur tous ces textes, jusque donc à la fin du chapitre 3. Donc là, on va juste lire maintenant du verset 10 au verset 29 de ce premier chapitre. Là encore, si quelqu'un veut le faire.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Alors merci, c'était un long texte, merci beaucoup, et c'est mieux quand c'est quelqu'un qui le lit plutôt que quand il y a plusieurs, parce que je pense qu'on arrive à mieux suivre. Et donc là, Paul va pointer du doigt donc un premier problème, on l'a dit, dans cette communauté, et il va donc commencer à reprendre à partir du verset 10, mais il va le faire en ayant préparé le terrain auparavant, avec notamment un petit mot qu'il a introduit au verset 9, hein, il va dire « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur ». Voilà donc l'entrée en matière de Paul. Il vous avez été donc appelé à la communion de Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'Église, c'est la communauté où sont rassemblés ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ, ceux qui ont été appelés, donc l'Église, on a vu que l'Église veut dire « appelé hors hein ». Donc ceux qui ont été appelés hors du monde. Et bien entendu qu'il y a une appartenance à Christ qui nous unit et qui est vraiment très importante. Et un chrétien qui est séparé du monde va tout naturellement rechercher la compagnie de ses frères et sœurs. Parce que c'est avec nos frères et sœurs vraiment que l'on se sent bien. Et c'est normal puisqu'il y a la même vie en chacun d'entre nous, même si on a des différences, on vient un petit peu de toute origine, la même vie, nous sommes enfants du même Père. Et c'est important. Et 1 Jean chapitre 5 verset 1 nous dit que c'est un fruit, et au chapitre 3 verset 14, il nous dit aussi que c'est un signe. Voilà, à quel signe nous reconnaissons que nous appartenons à Christ? C'est que nous nous aimons les uns les autres. On ne le lit pas, je vous l'ai mis, on ne le lit pas pour avancer un petit peu. Mais voilà, on a le même Père, et on sait que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Et donc Dieu a appelé les Corinthiens à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Par contre, il y a un problème. C'est que si on n'est pas en communion les uns avec les autres, finalement, on ne peut pas être en communion avec le Christ. Et là, celui-là, on va le lire, c'est dans Matthieu. Ou même, je vous le cite, voyons. Je vous cite un passage biblique, un autre passage biblique. Voyons, vous me dites si vous le connaissez. Lorsque tu vas offrir ton offrande, devant l'autel offrir ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui, puis ensuite viens offrir ton offrande. Est-ce que vous connaissez ce verset?
Oui.
Non, je vous le répète. Si, lorsque tu vas offrir ton offrande devant l'autel, tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui, et ensuite offre ton offrande. Mais si vous le connaissez, j'ai falsifié la parole de Dieu. Il n'existe pas ce verset. Voilà. Voilà. C'est pas ça. On peut le lire. Si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, voyez. Donc c'est la responsabilité est encore plus grande. Parce que c'est facile de se dire bon, finalement, moi j'ai rien contre lui. Si lui il a quelque chose contre moi, ça le regarde. Il a qu'à régler ça. Non, non. Là, et ça c'est un verset qui nous montre combien est précieuse aux yeux de Dieu la communion fraternelle. Voilà. Mon frère a quelque chose contre moi, et bien je vais aller le voir, pour vraiment, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, régler la chose. Voilà ce que nous demande notre Dieu. Et cela veut dire que si on n'a pas cette perspective, valeur de la communion fraternelle, quelque part, il est difficile d'être en communion avec le Christ.
Et c'est Matthieu 5, 23 et 24.
Oui, c'est cela. Voilà, c'est cela. Et Romains 16, 17, que je vous ai mis, nous met en garde, avec vraiment, vraiment beaucoup de sévérité, Paul dit, de nous éloigner, d'écarter de nous ceux qui causent des divisions. Donc il va très très loin dans ce texte de Romains, d'écarter carrément ceux qui causent des divisions. Et Paul va poser trois questions. Il va poser trois questions pour un petit peu faire comprendre aux Corinthiens combien est précieuse la communion fraternelle et combien il est important de s'attacher non pas au messager, mais à la source du message, à ce que pointe le message. Et il va poser donc ces trois questions. Il va dire, bon, d'abord, Christ est-il divisé? Donc, c'est le verset 13. Mais on peut lire juste les versets qui précèdent. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et il demande, Christ est-il divisé? Est-ce que finalement Paul a donné une partie de Christ à l'Église, Apollos une autre partie, Céphas encore une autre? Évidemment, c'est grotesque. C'est grotesque. Et en fait, voilà ce que Paul dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites comme les enfants. Quand on montre quelque chose à un enfant, on pointe du doigt quelque chose, qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Il ne va pas regarder la direction, il va regarder le doigt. Vous verrez, les petits-enfants, ils font toujours ça. Et Paul leur dit, mais c'est ce que vous faites, finalement. En vous attachant au messager, eh bien, vous passez à côté du principal. Ce que le messager veut vous montrer, c'est le Christ lui-même. Christ et Christ crucifié. Voilà un petit peu. Christ est-il divisé? Mais non, Christ n'est pas divisé. Et au chapitre 3, Paul va dire, mais de toute façon, il ne peut pas y avoir de rivalité entre serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre serviteurs de Dieu. Ce n'est pas possible. S'il y a une concurrence entre serviteurs de Dieu, ça veut dire que l'un ou l'autre, ou tous, ils n'ont pas compris certaines choses importantes. Il ne peut pas y avoir de concurrence. Ce n'est pas une entreprise ou des ouvriers qui essaient d'avoir quelque chose en plus. Non, non, non. Tout est pour Christ. Donc, pas de concurrence. Alors, Christ ne peut pas ne peut pas être divisé. Et la leçon pour nous, hein, c'est qu'on ne peut pas comparer, on a tort de comparer si on le fait, les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, on peut avoir des atomes crochus, on peut préférer une forme par rapport à une autre, mais le fond, c'est le Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, on ne peut pas comparer. Parce que les serviteurs de Dieu, leur objectif, eh bien, c'est qu'on se focalise sur Jésus-Christ. Et c'est uniquement ça le principal. Colossiens chapitre 1, verset 18, « Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc c'est lui le premier. Après nous, on est tous égaux, mais c'est lui le premier. Et puis, autre question que Paul va poser, donc il va demander au verset 13, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et puis, il va dire que, bon, merci Seigneur, je n'ai baptisé personne, excepté un tel, un tel, un tel. On voit qu'il ne se rappelle pas forcément de tout le monde, ça prouve qu'il n'était pas, hein, et ça prouve que ce n'était pas vraiment son objectif. Voilà, hein. Là aussi, quelque part, ça nous parle. Moi, j'ai déjà entendu certains voilà, qui voulaient être baptisés par un telle personne, dans tel endroit. Alors, pour ne pas le nommer, c'était au milieu du Jourdain. Voilà. On avait calculé la date, hein, la période pour à peu près se baptiser lorsque Jésus avait été baptisé à peu près à la même époque, et par un personnage très important, voilà, comme si ça avait quelque importance. Ça. Alors que Romains chapitre 6, je vous l'ai mis juste en note, on ne peut pas le lire bien sûr, mais nous explique que le baptême, c'est une identification avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Et puis on voit aussi, je crois que c'est dans 1 Pierre, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Christ, hein, vis-à-vis de Dieu. Et quelque part, si les Corinthiens, hein, se chamaillaient pour ça, hein, moi j'ai été baptisé par Paul, moi par ceci, moi par cela, ça prouve que vraiment ils n'avaient pas tout compris. Mais quelque part, peut-être d'une façon un petit peu plus, on va dire, bon voilà, moins visible, peut-être qu'on pourrait aussi se dire, mais tu vois, moi, hein, j'ai été enseigné par un tel dans telle église, hein, moi, cette Billy Graham, cette Fernand Legrand, tout ce que vous voudriez, hein, comme si ça aussi, ça avait une importance. Mais non. Ces serviteurs de Dieu, hein, leur objectif, ça a été toujours de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est la base, c'est le fondement. Et puis, il va aussi poser cette troisième question. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Et donc là, il va le développer dans les versets donc, 18 à 29. Il va développer ça avec toujours donc, comme base la croix de Jésus-Christ. Et il va opposer la sagesse ou la puissance de l'Évangile à la faiblesse de la sagesse humaine. Et dans les chapitres qui vont suivre, c'est ce que Paul va faire. Toujours, voilà, comparer finalement la sagesse qui vient des hommes avec la sagesse qui vient de Dieu. La puissance qui vient des hommes avec la puissance qui vient de Dieu. Et il va vraiment opposer ça. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, la crucifixion, c'était une mort horrible. Et c'était une mort vraiment qui était abominable. Et d'ailleurs, les citoyens romains, la loi interdisait qu'ils soient crucifiés. Ça, c'était réservé aux autres. Mais les Romains ne pouvaient pas être crucifiés, parce que c'était vraiment quelque chose vraiment de vraiment d'humiliant, d'exceptionnellement horrible, avec des souffrances terribles.
Et, c'est pour ça que Paul n'a pas été crucifié. Il était citoyen romain.
Oui, normalement, la loi l'interdisait, oui, puisque lui va le mettre en avant lorsqu'il a été battu de verge. Voilà. Et donc, parler d'un sauveur ayant connu cette mort horrible, ça paraissait inconcevable pour la sagesse d'alors. Ça s'opposait totalement. Et Paul va parler de cela. Et il va dire aussi, on le voit là, mais il va en reparler aussi plus tard, il va dire que lui, il a annoncé une seule chose, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, et cela sans la sagesse, hein, de la parole. Sans la sagesse du langage, va-t-il dire. Et il va dire, mais tant mieux. Parce que finalement, si l'emballage n'était pas extraordinaire, parce que j'ai bafouillé, parce que je n'ai pas, voilà, j'étais, on verra plus tard, dans une mauvaise passe, je ne suis pas peut-être un brillant orateur, donc si l'emballage n'est pas extraordinaire, tant mieux. Comme ça, au moins, vous, vous allez vous focaliser sur le contenu et non pas sur le contenant. Et peut-être que, bon, on sait qu'Apollos, ce sont les actes des apôtres qui nous l'apprennent, Apollos était un brillant orateur. Donc peut-être que certains ont comparé. L'un avait beaucoup de facilité pour s'exprimer, alors que l'autre, peut-être, n'avait pas cette facilité. Mais Paul dit, mais c'est dérisoire de regarder à cela. Regardez plutôt le contenu du message. Et on voit que, donc, les Juifs, donc là, il y a trois réactions, je ne sais pas si je l'ai mis. Non. Les Juifs, en fait, vont être scandalisés par le message de la croix. Ça va être vraiment une chose sur laquelle ils vont venir se heurter. Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Il nous est dit ici que les Juifs demandent des miracles, au verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Et parler d'un sauveur qui a été crucifié sur la croix, c'est en fait à l'encontre de ce qu'eux recherchent. Ils recherchent la puissance, quelque chose qui se voit. Et on leur parle d'un charpentier qui a fini sa vie en étant crucifié. Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et l'histoire juive, finalement, on voit qu'elle est jalonnée d'événements miraculeux. Il y en a énormément, on ne va pas les citer, vous les connaissez. Mais finalement, quand on regarde aussi la vie du Christ, on voit que lorsque, par exemple, il a guéri un aveugle de naissance, les connaissances de cet aveugle ont dit « mais c'est pas lui ». C'est pas lui, mais simplement il lui ressemble. Et même lorsque lui disait, mais c'est moi, là encore, ils hésitaient. Et après, cet aveugle guéri a été amené auprès des autorités religieuses, et elles ont appelé les parents, parce qu'elles ne le croyaient pas. Et les parents ont dit, oui, c'est bien notre fils. Et même là encore, ils avaient des doutes. Finalement, ça nous montre, pourtant, c'était même l'aveugle va dire, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait guéri un aveugle né. Donc c'était un miracle extraordinaire. Et malgré ça, ils ne voulaient pas croire. Lorsque Lazare a été ressuscité, non seulement ils ne voulaient pas croire, mais ils voulaient faire mourir Lazare et Jésus, pour pas que les autres croient. Donc, pour dire que ce ne sont pas les miracles qui sont la base de notre foi. Et c'est un verset, voilà, Romains 10, 17, qui parle de la base de notre foi. La foi vient des miracles, non. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est ce sur quoi nous voulons fonder notre foi. Vraiment, véritablement sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle, la base de la foi, qui nous permet de vivre des épreuves, même si on ne voit pas l'intervention de Dieu d'une façon miraculeuse. Mais si notre foi est basée sur la parole de Dieu, eh bien, on peut avancer quelles que soient les situations dans notre vie. Et que vraiment nous puissions nous encourager les uns les autres à toujours, toujours regarder à cela, baser notre foi uniquement sur la parole de Dieu. Jésus va dire, parce que finalement, si on recherche les miracles, c'est plus la foi, mais c'est la vue. Moi, je pourrais même raconter dans ma famille un miracle extraordinaire des cousins et oncles qui n'étaient pas chrétiens, et ils ont prié, etc. Et puis, il y a eu le miracle. Et le médecin a dit, le chirurgien a dit, mais... c'est pas moi, c'est un miracle. Et puis quelques temps plus tard, il ne faut rien savoir. Quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Mais si on base sa foi sur la parole de Dieu, ça change tout. Et donc pour les Juifs, c'était vraiment quelque chose qui ne collait pas. Comment baser notre foi, notre sagesse sur l'œuvre de la croix, c'est pas possible. Et Paul va dire la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que la puissance des hommes, que la sagesse des hommes. Et juste, je vous avais noté aussi Romains 1, 16, non, je ne l'ai pas noté, mais il nous a dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on l'a déjà dit, le mot puissance a donné aussi le mot dynamite. Donc c'est quelque chose, voilà, une force extraordinaire. Les Juifs recherchaient la puissance et ils se heurtaient ainsi à la faiblesse de la croix. Et puis les Grecs, eux, se moquaient de la croix. Ils étaient tellement sages à leurs propres yeux. Les philosophes grecs, la sagesse qui vient de la Grèce, et bien entendu, ils ne voyaient aucune sagesse dans la prédication de la croix. Et ils ridiculisaient ce message. Et leur influence se faisait sentir même au niveau de l'Église. Et à un moment, dans les Actes des Apôtres, Paul va parler, il est à Athènes, Il va parler donc à des Grecs très sages, et puis il va parler d'un temps d'ignorance. Il va oser parler aux Grecs, qui se croyaient tellement sages, d'un temps d'ignorance. Il va dire Dieu, voilà, hein, ne te demande pas d'un temps d'ignorance. Oui.
À cette époque, les Grecs ne croyaient que à la mythologie grecque.
Comment ?
À cette époque, les Grecs ne croyaient que à la mythologie grecque.
Oui, alors il y avait la mythologie grecque, hein, qui était très importante, avec notamment la déesse Aphrodite, etc. Mais il y avait aussi toute la philosophie qu'on étudie encore aujourd'hui. Ouais, et qui est vraiment très importante et qui est intéressante, hein, mais qui finalement est dérisoire par rapport à la sagesse de Dieu. Et c'est ce que Paul veut leur dire, en fait. Paul connaissait, c'était quand même quelqu'un de très très instruit, il connaissait, on n'en doute pas, la philosophie grecque. Mais il leur dit, mais voilà, par rapport à la sagesse de Dieu, ben, c'est rien. C'est rien. Donc vraiment, ne vous faites pas arrêter par cela. Et. Finalement, quelque part, aujourd'hui encore, on peut vraiment se retrouver. Il y a ce verset de Romains, chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le contexte de ce chapitre de Romains nous montre que l'homme, en observant simplement la nature qui l'entoure, peut prendre conscience de la sagesse et de la puissance de Dieu. Et si l'homme ne veut pas croire déjà en un créateur, ben c'est une folie. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc c'est une folie. Et là, Paul va dire, ben voilà, ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un verset qui décrit notre civilisation. Et on pourrait vraiment parler de cela, et on ne va pas le faire, on pourrait parler de cela, vraiment, c'est un verset qui décrit notre civilisation. Et si, et ça, vous allez, donc les jeunes notamment, hein, vous allez étudier la philosophie, c'est très intéressant la philosophie, mais c'est limité comme intérêt, la philosophie. Il y a ce verset 8 de Colossiens chapitre 2 qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Et ça, vous devez vous le rappeler. Parce que ça peut être un piège, la philosophie. Et Colossiens,
tu l'as là, normalement. Mais je te cache peut-être.
Ah, mais vous ne voyez pas grand-chose, en fait.
fallait
me le dire.
N'osez pas.
Colossiens 2:8.
Voilà, c'est pas. Voilà, alors là, c'est un petit peu plus petit pour ceux du fond, mais au moins, tout est entier. Et juste un petit truc aussi. Bon, philosophie, donc l'amour de la sagesse. Hein, la source de la sagesse, c'est Jésus-Christ. On a lu, hein, Jésus-Christ a été fait pour nous. Hein, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Donc, la source de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Et il y a des passages de l'Ancien Testament qui parlent de la sagesse et qui, donc, cette sagesse, finalement, elle personnifie Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre sagesse. Et quand vous étudierez la philo, rappelez-vous de ça. Philo, donc j'aime la sagesse. Et vous aimez Jésus-Christ. Et vous vous rappellerez à la limite même de ce chant qui dit Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Voilà. Et encore une fois, la philosophie est intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé les cours de philo. Mais ça peut être aussi un piège. Et vraiment, on a à être vigilant et on peut être gardé vraiment par la parole de Dieu. Et par l'amour de la véritable sagesse. Et puis, dernière réaction, hein, la troisième, certains vont croire donc en cette prédication de la croix, et ils vont découvrir ainsi la puissance de la croix, la puissance de l'évangile, la sagesse de la croix. Et donc ça, ce sont ceux qui ont répondu par la foi, et qui vont donc rentrer dans cette connaissance. Et ça, quelque part, c'est le merveilleux fondement de l'unité spirituelle. C'est avec cette troisième réaction qu'ensuite il y a l'unité spirituelle. On est unis, encore une fois, parce qu'on appartient à Jésus-Christ, parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Et juste, je pense que Georges, peut-être que je déborderai sur ta oui. Ouais, voilà, comme ça, moi, je suis plus tranquille, sinon je vais prendre le TGV. Parce qu'on devait faire le chapitre 2 aussi, et si on finit le chapitre 1, merci Seigneur. Voilà. Et intervenez aussi si vous le voulez. Mais je voudrais aussi vous donner un exemple qui nous avait été donné par Jean Batina il y a peut-être 20, 25 ans. Peut-être. C'était avant, on faisait des cultes l'été pour les enfants, parce que les enfants ne montant pas dans les classes du dimanche, le culte, le message était pour les enfants, donc c'était bien, moi je comprenais. Jean avait amené une roue de vélo qu'il avait modifiée, il avait décentré l'axe, et puis a tourné. Alors il avait dit, voilà, cette roue, elle s'appelle, c'était un prénom avec trois lettres, M-O-A. Et il disait, c'est moi. Et puis quand elle tournait, elle faisait du bruit, et on avait, voilà, il disait, voilà, moi, moi, moi. Et puis après, une roue de vélo en bon état, et il nous avait fait remarquer que les rayons sont unis entre eux, comment? Parce qu'ils sont fixés sur le moyeu. Voyez, et le centre, c'est Jésus-Christ. Et donc, on est unis parce qu'on est fixé, on est vraiment hanté en Jésus-Christ. Si un rayon n'est pas en Jésus-Christ, il ne peut pas être uni aux autres. C'est impossible. Et ça, ça nous donne un éclairage aussi, une compréhension, et ça on y reviendra aussi dans le chapitre 11, une compréhension notamment sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, il y a des compréhensions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et on pense que finalement, si on prend la Sainte Seine, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans une situation normale, on va en quelque sorte être contaminé. Mais non, si cette personne-là n'est pas unie à Christ, on n'est pas en communion avec elle. Voilà, c'est pas possible. Et il nous arrive, en tant que responsable, ça nous est arrivé, de demander à des frères ou des sœurs de ne pas prendre la Sainte Seine parce que ces personnes-là étaient dans une situation qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, mais ce n'était pas dans la crainte qu'on soit contaminé, c'était simplement pour que ces personnes-là ne prennent pas un jugement contre elles-mêmes. Voilà, c'était tout simplement cela. Mais voilà, on est unis parce qu'on est fondé en Jésus-Christ. En dehors de Christ, il ne peut pas y avoir de communion. Voilà. Et, parenthèse encore, puisqu'on y est, ça nous montre qu'on ne peut pas être en communion avec des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Lorsque Jésus a fait cette prière, dans Jean 17, je pense, peut-être Jean 17, que tous soient un, comme nous sommes un. Et souvent on prend cette prière pour justifier une communion avec des personnes, mais si elles ne sont pas en Christ, ce n'est pas possible. Que tous soient un, comme nous sommes un, c'est-à-dire que le Père et le Fils sont de la même essence, de la même nature. C'est pour ça qu'ils sont unis. Et nous, lorsque nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous avons la vie de l'Esprit en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Nous sommes son enfant et nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Et nous savons que lorsque nous serons dans les cieux, nous deviendrons semblables à lui. Parce que nous sommes, la nature divine est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, même s'il est meilleur, s'il fait des choses qui sont vraiment extraordinaires, on ne peut pas avoir cette communion avec lui. Et on en avait discuté lors d'une étude sur la doctrine, c'était en avril ou en mai, je crois, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas non plus trop y revenir. Mais vous savez que l'œcuménisme, ça veut dire sur la terre habitée tout entière. Et dans ce sens-là, lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher, et que ensuite, par leur intermédiaire et par ricochet, la terre entière soit évangélisée, c'était pour que l'évangile soit sur la terre tout entière, donc l'évangile œcuménique. Oui. Mais ce terme a été utilisé, il a été dévoyé, il a été utilisé dans un sens qui n'est pas le bon, et on veut en fait prendre la prière de Jésus pour vraiment essayer de gommer toute différence. Si c'est entre enfants de Dieu, pourquoi pas? Mais si c'est avec des personnes qui ne sont pas à Christ, c'est impossible. On ne peut pas être en communion avec elles, parce qu'elles ne sont pas fondées sur le Christ. Et dans le livre d'Esdras, on a la construction du temple. Les Juifs donc sont revenus d'exil pour reconstruire le temple. Et il y a Zorobabel qui est à leur tête, et il y a un travail qui est énorme. Et à un moment, il y a de l'aide qui arrive. Donc quand vous êtes comme cela dans la panade, parce qu'il y a tellement de choses à faire, l'aide est bienvenue. Et donc il y a des personnes qui viennent qui disent, mais nous aussi nous allons construire avec vous, parce que comme vous, nous adorons aussi le même Dieu. Et Zorobabel va dire, non, ce n'est pas à vous à construire le temple. C'est à nous, simplement, à construire le temple. Et le texte nous apprend que c'était des ennemis de Dieu. Qui étaient-ils? Et dans Deux Rois, on apprend qui étaient ces personnages. En fait, c'était des Samaritains qui, effectivement, c'était vrai, ils adoraient le Dieu d'Israël, mais en même temps, ils adoraient aussi leurs idoles. Donc c'était des syncrétistes. Donc il y avait un mélange. Et Zorobabel dit non, c'est pas possible. Et c'est vraiment, vraiment une ligne de conduite que nous voulons avoir. Et quelqu'un va dire, mais alors, ces gens, on va les rejeter. Quelque part, c'est triste. Mais moi, je dis au contraire, on ne les rejette pas. Parce que si ces personnes sont dans l'erreur et se perdent, et que l'on brouille le message, mais c'est là qu'on les rejette. Une lampe, pour qu'elle éclaire, il faut qu'elle soit vraiment sans aucun obstacle. Il faut que la lumière puisse vraiment se répandre. Mais si on met un voile sur la lampe, eh bien, quelque part, on atténue son efficacité. Et voilà, en ayant un message clair, au contraire, au lieu de rejeter ces personnes, peut-être qu'elles s'interrogeront et que c'est sûr qu'elles sont sincères. Hein. Paul va dire dans Romains chapitre 9, hein, mes frères israélites, hein, dans la chair, mais c'est vrai, d'une façon sincère, ils adorent Dieu, sauf qu'ils se trompent, hein, et qu'ils vont à la perdition. Et donc, voilà, avoir un message clair, c'est te montrer aussi à la personne que, effectivement, tu es sincère, mais tu te trompes, parce que ta sincérité, ta foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Et donc, tu n'es pas fixé, hein, tu es un rayon qui n'est pas fixé sur le moyeu de Jésus-Christ. Voilà, hein, je fais juste un petit peu de voilà, une petite parenthèse, mais on va continuer. Et les versets 30 et 31, et je pense qu'on s'arrêtera là. Et après, je te demanderai un petit quart d'heure, peut-être, pour terminer, si ça te dérange pas trop.
L'article aussi. Hein.
Là, on a quand même des versets aussi qui sont magnifiques. Versets 30 et versets 31. Or, c'est par lui que vous êtes dans Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà. Vous êtes en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre position. Nous sommes en Christ. Et il y a énormément de passages bibliques qui nous disent que nous sommes en Christ. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Romains, par exemple, chapitre 8, verset 1. Ainsi donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour qui ? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est notre position. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose comme ça qui est en devenir. Non, nous sommes actuellement en Jésus-Christ. Et cette position nous amène mais vraiment des bénédictions qui sont merveilleuses. Et simplement, on a beaucoup de difficultés à nous approprier cette position en Christ. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous révèle toute la beauté de cette position, eh bien, vraiment, on peut témoigner que c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, savoir que nous sommes en Christ. Et toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Et Jésus-Christ est, parce que nous sommes en Christ, notre sagesse. Peut-être Colossiens chapitre 2, verset 3 nous en parle. Jésus-Christ est notre sagesse. Est-ce que je l'ai parlé ? Oui, voilà. Colossiens 2, 3. Hein, si vous voulez voir Jésus-Christ, notre sagesse, c'est pour reprendre le verset que nous avons lu ici. Jésus-Christ, notre justice, 2 Corinthiens 5, 21. Jésus-Christ, notre sanctification, donc qui nous permet de vivre séparé du monde, tout en étant dans le monde, et qui est celui qui vraiment nous fait grandir en lui de jour en jour. C'est lui qui est notre sanctification. Ce ne sont pas nos forces propres qui nous permettent de grandir, de croître, mais c'est Jésus-Christ. Et c'est son œuvre à la croix, et c'est quelque chose qu'il a fait. Et puis également, Jésus-Christ est notre rédemption, entre autres Romains 3, 24. Voilà, voilà un passage encore merveilleux. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour Jésus-Christ, nous appartenons à Jésus-Christ, et donc, puisqu'il en est ainsi, pourquoi tirer notre gloire des hommes ? Puisque tout nous vient de Christ, puisque c'est lui qui a tout fait, hein, pourquoi est-ce qu'on va se focaliser sur les hommes ? Non, toute la gloire doit revenir à Christ. Et simplement à lui. Et Paul était extraordinaire. Mais est-ce que Paul possédait quelque chose que nous n'aurions pas ? Non, puisque nous avons tout en Christ. Il en est ainsi d'Apollos, de Céphas, etc. Nous avons absolument tout à notre disposition avec cette position que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul va développer ensuite dans le chapitre 2. Et Dieu voulant, eh bien, on prendra un petit moment la prochaine fois pour le voir, parce que là, je vois que c'est... pratiquement l'heure, donc si on commence à l'attaquer, ça va pas le faire. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques réflexions, quelques questions.
Bon, au début du passage, quand il reproche aux Corinthiens de se dire je suis un dantel, je suis dantel, je peux pas m'empêcher de penser à, je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où on voit des prédicateurs qui ont du punch, qui ont une certaine aisance, c'est même théâtral parfois. Et je me pose la question de, est-ce que ça peut attirer, mais est-ce que ça attire vraiment vers le Seigneur, quoi? C'est ça qui est...
Il y a les deux côtés, en fait. Il y a les deux côtés. Paul, alors on le verra dans le chapitre 2, Paul ne va surtout pas dire que, bon, si quelqu'un comme Apollos a beaucoup de facilité, que, bon, il se dit, bon, mais non, moi, hop, je vais pas, je l'oublie, puis je vais bafouiller, je vais tout faire. Non, mais d'un autre côté aussi, si Apollos se base sur sa facilité, et non pas sur Christ, eh bien, il perd de vue l'essentiel. Et peut-être qu'en ayant aussi quelque chose de théâtral, les regards sont focalisés sur la personne, sur le spectacle en quelque sorte, et au détriment du but du message lui-même. Et effectivement, il y a un danger, et on a tellement besoin de l'Esprit de Dieu et du discernement que Dieu nous donne pour que finalement... Moi je dis toujours, par exemple pour les présidents, une bonne présidence, c'est quoi? C'est quand l'assistance, on part, on dit ah, quel culte merveilleux, et puis quelqu'un qui n'était pas là dit tiens, mais qui c'est qui présidait? Ah tiens, je ne me rappelle pas trop, ah oui, c'était un tel. Voilà. Finalement, on a presque oublié celui qui était derrière la chair, parce que nos regards ont été dirigés vers Jésus-Christ. Voilà. Et pour le message, c'est pareil aussi. Hein, presque, on oublie qui. Tiens, j'ai entendu un message, je ne sais pas qui c'est qui l'avait donné, mais voilà ce qui était dit, et ça m'a fixé sur le Christ, ça m'a fixé sur Jésus-Christ, voilà, et Jésus-Christ crucifié. Et c'est vraiment l'important. Juste une petite anecdote, puisque je vois qu'il y a 3 minutes, à ce sujet-là, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sur le fronton d'une église, c'est le verset qui avait été gravé dans la pierre. Voilà. Et donc nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et du lierre a poussé. Et puis, au bout d'un petit moment, on ne voyait plus que nous prêchons Jésus-Christ. Il n'y avait plus Jésus-Christ crucifié. Donc déjà, il y avait une partie du message qui était de côté. Et puis, le lierre a continué à prêcher, à pousser, pas à prêcher. nous prêchons. Jésus-Christ avait disparu. Et puis, ça a encore poussé, et il n'y avait que nous. Et quelque part, c'est une image aussi de ce qui peut arriver à la chrétienté, si on oublie la base, le message principal, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà.
Juste, oui. Ça peut arriver que dans une église, il y ait un prédicateur qui prend beaucoup de place. Mais les cœurs, par contre, peuvent être tournés vers le Seigneur. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être dans une assemblée, ne pas, entre guillemets, adorer le prédicateur et pourtant avoir le cœur tourné vers Christ. Ce qui veut dire que si on voit quelqu'un qui est dans une autre assemblée et dans cette assemblée, on a tendance à élever le pasteur. Ça ne veut pas dire que tous ils suivent aveuglément cet homme et tout. On est sorti peut-être de diverses assemblées. Je suis sorti de notre assemblée, mon regard était fixé sur Christ. À un moment, c'était sur le pasteur, mais j'ai compris. J'ai compris. Et à ce moment-là, j'ai dû changer. Bon, je passe les détails. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'on ne va pas rejeter quelqu'un qui est dans une autre assemblée sous prétexte que dans l'assemblée, on élève le...
Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, on l'a lu. Parce que dans cette assemblée de Corinthiens, donc il y avait des divisions parce qu'ils regardaient aux personnes et non pas à Christ. Et Paul a été averti par les gens de la famille de Chloé. Donc ça prouve que la famille de Chloé n'avait pas ce mauvais réflexe. Et peut-être que d'autres aussi ne suivaient pas. Mais c'est peut-être aussi pour nous, malgré tout, un encouragement à être vigilant. Voilà. Et chacun pour sa part. Voilà. C'est vraiment un petit peu... Voilà, vraiment, c'est pas une personne, c'est le Christ, simplement, pour tous.
C'est encourageant par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux réseaux sociaux ou Internet.
Ouais,
dans le sens où on peut avoir cette tendance, on a des bons prédicateurs, c'est pas juste parce qu'ils sont éloquents, parce que des fois, tu as des prédicateurs qui sont éloquents et qui prêchent la parole, prêchent Christ. Mais on peut vouloir, comme les Corinthiens, un peu se glorifier de suivre. Je suis celui-là, moi je suis celui-là. Et du coup, on se dit, voilà, moi je suis machin. Et donc, du coup, c'est impressionnant ce texte qui nous.
C'est tout à fait ça. Parce que là, ce ne sont pas les prédicateurs qui sont en cause. C'est ni Paul, ni Céphas, ni Apollos. C'est la réaction des. Et on le verra après. Hein. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la réaction d'une partie, en tout cas, de l'église de Corinthe.
Et Dieu peut même parler par un âne.
Pas
Dieu peut parler par un âne.
Oui. Pourquoi tu me dis ça?
Ne vise personne.
Qu'on peut s'apercevoir, enfin, avec l'apôtre Paul et même Apollos, c'est leur humilité qu'ils ont. Parce qu'après, dans le texte, on voit qu'ils ne se font pas appeler des maîtres, mais plutôt ouvriers. Avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux qu'on peut voir et tout, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler apôtres, qui se font appeler. Mais, voilà, il y a un peu du spectacle, on voit beaucoup de miracles, mais parfois je me demande si ces miracles-là. Bon, oui, Dieu peut faire des miracles, bien entendu, mais est-ce que vraiment ça vient de Dieu ou pas? Et la dernière fois, tu avais parlé justement du. Avec Pharaon, le bâton, il y avait des magiciens aussi, ça venait pas de Dieu non plus. Donc je crois qu'il faut être humble et vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Et après, on n'a pas à juger, bien sûr, ça ne nous appartient pas.
Juste pour ça, là, parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais sur les miracles, là on voit bien, moi dans mon expérience et dans la parole, tu vois qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les Samaritains qui ont cru à la parole de Jésus et ils n'ont pas vu le miracle, tu le vois dans Jean 4, 41. Et dans le même chapitre, juste un peu après, à Capernaum, Jésus dit à l'officier qui s'occupait de. Donc l'officier du roi dont le fils était malade, il dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc il ne faut pas aussi négliger la part des personnalités et des histoires. Et moi je le vois dans le miraculé qui monte dans l'autre camp. En ce moment, depuis 10 ans au moins, on le voit dans nos pays. Donc voilà, c'est aussi garder une nuance, de ne pas avoir peur du miracle non plus, parce que c'est le quotidien de Dieu.
Oui. Voilà. Mais après, la problématique vient quand, en fait, le miracle est mis en avant, et finalement, les regards se focalisent sur le miracle, et non pas sur l'auteur. Voilà.
C'est ça.
Voilà. Voilà. Mais ça, on va aussi peut-être y revenir, notamment dans notre chapitre aussi. Je vous propose qu'on termine en priant. Je ne sais pas si quelqu'un veut prier.
Seigneur, on veut te remercier ce soir pour ce miracle que nous avons, cette parole avec nous. Oui, c'est une chose extraordinaire de pouvoir ouvrir ta parole, ouvrir les mots qui viennent de toi et de pouvoir les étudier. Seigneur, c'est un miracle d'avoir cet esprit en nous qui nous aide à comprendre, à nous rapprocher de toi à travers cette parole et grâce à l'esprit que tu as mis en nous. Seigneur, on veut te remercier et te prier que ces quelques moments qu'on a passés ensemble nous aident à toujours mieux te connaître, à toujours mieux marcher avec toi. Seigneur, ce ne soit pas juste un bon moment, ce ne soit pas juste une contrainte de venir, mais que ce soit vraiment un apport pour chacun d'entre nous dès maintenant et pour le reste de notre marche ici-bas, que nous sachions aussi être encouragés à continuer à lire ta parole, et quand on la regarde ensemble, on est tellement émerveillés. Seigneur, aide-nous à profiter de cette merveille. Seigneur, on veut te remettre encore tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce soir, tu les connais tous. On veut te remettre aussi les personnes pour qui on a prié tout à l'heure, encore une fois, que tu les aides à passer les épreuves, qui sont devant elle, Seigneur. Et on veut encore te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu es, Seigneur. Amen.
Amen.
Voilà. Alors, juste avant de se séparer, deux petites annonces. D'abord, il y avait ça au